Cube Radio.
CAA Québec, fier présentateur de l'émission Le Guide de l'Auto. Saviez-vous que CAA Québec, c'est aussi pour les véhicules électriques? Découvrez le balado sans détour, des conseils, des offres exclusives et bien plus au caquebec.com. Bonne écoute!
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Écoute, première nouvelle, c'est la Civic, hein, 2022. Oui. Enfin, on a les détails.
On l'attendait teasé depuis longtemps. On nous avait montré un prototype, puis enfin une première image. Mais bon, c'est cette semaine que ça s'est passé.
Ouais.
Pour la Civic berline, donc le modèle de grand volume. Peut-être une légère déception sur le plan mécanique parce que ben il n'y a pas d'évolution. Finalement, on conserve les deux mécaniques de la 10e génération pour la 11e génération. Donc, pour les versions LX, EX et Sport, on va avoir le 4 cylindres de 2 litres. Puis pour une version Touring qui va se placer au sommet de la gamme, ben on va avoir le 4 cylindres turbo-compressé, cette fois-là, de 1,5 litres.
C'est ça. Et tu vois, ces mécaniques-là, bon, respectivement, vont gagner, On parle d'une économie de carburant par rapport à l'ancienne génération d'à peu près 3 %.
Oui.
Donc, c'est vraiment c'était pas grand-chose.
Non, mais c'était déjà des mécaniques qui étaient assez frugales. Là. Donc,
ça.
À un moment donné, oui, on peut aller chercher des dixièmes ici et là, mais je pense
c'est
que chez Honda, on est des motoristes. On a vu qu'on a eu... C'est pas sans faille, mais on est habitué de développer des mécaniques qui sont optimisées. Puis, je pense que ces deux-là, ben, c'est un bel exemple. Là.
Bon, évidemment, de ça, on retient qu'il n'y a plus de version d'entrée de gamme, pas de version DX, pas de boîte manuelle non plus de disponible pour la berline Civic.
Ça, c'est une grande nouvelle parce que ben, on sait que c'est une voiture qui était relativement populaire avec la boîte manuelle, mais là, on l'élimine.
Donc, on parlait en 2020 de 16 % des berlines Civic qui ont été vendues en boîte manuelle, excluant la version SI des Civic régulières. Au Canada, c'était 6 % et moins de 5 % sur le marché américain, ce qui explique la décision du constructeur à ce niveau-là. Par contre, en entrevue un peu plus tôt cette semaine, j'ai pu parler avec le chef de la planification de produits chez Honda, qui lui me disait que les boîtes manuelles demeureraient pour la berline Civic SI, qui, elle, va arriver un peu plus tard, et ça sera la seule transmission disponible. Alors ça a été surprenant pour moi. Moi, j'étais persuadé qu'on arriverait avec une transmission double embrayage ou même une CVT pour la Civic SI, considérant que la GTI se vend à 60 % avec des boîtes automatiques. Alors,
même si les voitures sportives sont populaires avec une boîte manuelle, forcément, rendu en 2022, c'est pas tout le monde qui veut embrayer soi-même. Donc, c'est très étonnant de voir cette décision-là prise par Honda.
On nous dit par contre que pour la version hatchback, qui elle aussi va arriver un peu plus tard et qui sera désormais fabriquée aux États-Unis, non plus en Angleterre, là, on va offrir un choix de boîte manuelle ou CVT. Il n'y aura pas de version SI hatchback. Ça, pour moi, c'est une surprise aussi. Je m'attendais à voir débarquer une version SI de la hatchback, surtout considérant le fait qu'on veut placer la Civic hatchback de façon premium ou plus élevée hiérarchiquement dans la gamme Honda. Un peu comme fait avec la Golf versus la Jetta. Donc,
et par le passé, le fait qu'elle soit assemblée en Angleterre forçait Honda à la placer un peu plus haut de gamme
parce qu'elle
coûtait plus cher à assembler, tout simplement.
Mais elle sera vendue plus cher aussi, la Civic Hatchback. L'attendez-vous pas à une Civic Hatchback en bas de 25 000. Ça n'existera probablement pas. On aura, évidemment, un moteur 1.5 turbo. Il y aura aussi une version de ses pairs qui va arriver plus tard. Donc ça va arriver. Il n'y a plus de coupé. Ça, c'est terminé.
Non.
On le savait déjà, de toute façon.
Ça s'est officialisé, matérialisé, mais malheureusement.
Mais pour celui qui voudra une Civic à boîte manuelle, ça sera soit l'hatchback ou la berline SI, ou encore, évidemment, l'hatchback type R.
Mais là, on est ailleurs complètement.
Exactement.
Assemblage de la berline, ça demeure au Canada.
Bien sûr.
On ne s'étonne pas de ça.
Usine à laquelle j'ai déjà travaillé, d'ailleurs,
oui.
En 1997, où on fabriquait des Civic, des spéciales éditions vert forêt et argent.
C'était une autre époque.
Et puis des Acura 1.6 EL aussi.
Oui.
Oui, monsieur.
Une autre époque, effectivement.
Bon, j'ai voulu aussi, quand j'ai parlé avec les gens d'Honda, j'ai abordé le sujet de l'électrification, bien sûr. Parce qu'Honda, on le sait, là, on émet des communiqués. On a même émis un communiqué il y a quelques jours à peine mentionnant que Honda vise que des véhicules 100% électriques pour 2040.
Oui.
C'est loin, là.
C'est très loin.
C'est ça.
Mais si on veut y arriver, il va falloir qu'on s'y mette un jour, là.
C'est ça. Puis Honda et l'hybridation, ça n'a jamais fait bon ménage. On dirait qu'on n'a jamais voulu réellement en vendre ou mettre les efforts nécessaires pour percer le marché. Actuellement, on a une Insight qui est une Civic hybride, on peut appeler ça comme ça, mais qu'on ne vend qu'au compte-gouttes parce qu'Honda ne veut pas la promouvoir. Et j'ai posé la question, faut-il s'attendre à une Civic électrifiée pour cette génération-là?
Et c'est quoi la réponse?
Et on a été honnête chez Honda parce que d'habitude, on répond toujours la même chose. On ne parle pas des futurs produits. Mais là, on m'a dit, pour 2022, pas de version électrifiée. Attendez-vous toutefois à voir une version électrifiée débarquer dans les prochaines années. Et ça pourrait autant être une version hybride régulière qu'une hybride rechargeable.
OK. Alors,
il y a des plans pour une Civic électrifiée très prochainement. On est conscient que du côté de Hyundai et de Toyota, on offre des Elantra et des Corolla des hybrides. Alors ça...
L'offre est présente.
Puis Honda n'a pas le choix de demeurer leader. Là. On ne peut pas se permettre de tomber deuxième avec la Civic. C'est impossible.
Et malheureusement, Corolla... c'est ce qui s'est passé avec le CR-V, le RAV4. Là. On a laissé le RAV4 passer loin devant.
Oui, mais
là.
Ça, c'est une loi de marché. C'est-à-dire que... Mais on ne peut pas se retrouver derrière la Corolla, par exemple,
sur le marché
canadien. Puis il ne faut pas oublier...
Ça, c'est pas pardonnable.
Ben oui, puis il ne faut pas oublier que la Corolla, c'est aussi une voiture très, très, très populaire chez nous qui gagne des parts de marché parce qu'il y a plein d'autres constructeurs qui l'ont délaissé, ce marché-là. Alors, t'as Nissan qui traîne de la patte, mais qui commence à aller chercher quelques pourcents au niveau des parts de marché avec la nouvelle Sentra.
Avec un produit qui est franchement convaincant,
Oui, c'est ça. Puis pendant que Nissan gagne des parts de marché, Mazda en perd avec la Mazda 3, qui est une voiture franchement impressionnante, mais qui ne réussit pas à séduire la clientèle comme elle le faisait dans le passé. Bon, la Golf s'en va, ça règle un problème. Je parlais avec les gens d'Honda à la blague de la Golf qui disparaît, puis je leur ai posé la question.
Est-ce que ça a
changé
leur,
jamais on aurait pu croire que la Golf disparaîtrait de gamme Volkswagen parce que c'était le cœur, le pouls de cette marque-là. C'est la même chose pour la Civic. Évidemment, on ne dira pas qu'un jour la Civic pourrait disparaître, mais c'est clairement pas dans les plans d'Honda. La Civic, ça fait partie
Et contrairement à la Golf, la Civic est forte ailleurs au pays, ailleurs aux États-Unis.
Ben
contrairement à la Golf, qui, elle, était populaire qu'ici, finalement, là.
Ben oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que la Golf est populaire partout dans le monde.
Oui.
Puis la Civic, c'est une voiture qui se vend bien chez nous, en Amérique du Nord, peut-être un peu moins bien sur d'autres marchés.
Et son avantage, c'est d'être assemblé ici.
Ah, ben non, c'est clair.
Ça, c'est évident. Sur le plan de la rentabilité du produit, c'est une grande qualité pour elle, là.
Donc, la nouvelle Civic, même motorisation, on le sait, ligne très évolutive, ça fait un peu Honda Accord. Faut aimer la partie avant. Écoute, je vais être honnête, je suis pas fan du design, pas plus que de l'ancien. Faudra que je la voie physiquement pour m'y habituer.
Tu me disais qu'on avait apporté des changements importants à l'intérieur.
Ben c'est ça. Alors, l'habitacle est beaucoup plus épuré. En termes de design, moi, je trouve ça très intéressant. Et les plus grosses plaintes ou les plus gros commentaires, les commentaires les plus nombreux qu'Honda a reçus pour l'évolution de cet habitacle-là, la clientèle demandait une meilleure position de conduite.
Ouais.
Donc, autrement dit, être positionné un peu plus haut avec une meilleure visibilité, avec un sentiment d'espace supérieure. Alors, on a travaillé énormément là-dessus. Ce pourquoi on a devancé les piliers A, on a une plus grande surface vitrée et une assise qui est plus confortable et positionnée différemment aussi.
Parce que dans la 10e génération, on avait carrément l'impression d'être assis sur le plancher.
Oui, puis ça a toujours été pour la Civic. Oui. Hein? Faut pas oublier.
Marché a pris une autre tangente au fil du temps.
Exactement. Puis il y a bien des gens qui délaissent la Civic pour aller dans un HR-V parce que c'est juste plus facile de s'y glisser. Alors ça, on a voulu corriger ce problème-là. Bon, évidemment, plus de sécurité, meilleur système audio. Finalement, on a droit à un volant chauffant, ce qu'on n'avait pas dans la Civic. Puis les gens commençaient à se plaindre de ça. Donc, on a mis à jour, évidemment, tout ce qui s'appelle l'équipement technologie, l'écran central qui est beaucoup plus moderne, une chance. Donc, tu sais, on a travaillé à ce niveau-là. L'espace au niveau de l'ouverture du coffre, ça a été amélioré. Donc, c'est une voiture qui sera plus homogène, plus confortable et plus silencieuse aussi. On ne pouvait pas s'attendre à moins, Marc Bain, là. mais bref, on a travaillé à ce niveau-là. Alors, je pense que... Puis, on a retravaillé le châssis aussi pour une meilleure rigidité. Donc, je pense qu'il faut surtout s'attendre à une voiture beaucoup plus raffinée sur le plan technique qu'impressionnante au niveau de son apparence. Puis, moi, j'ai bien hâte de prendre le volant de cette voiture-là.
Absolument, absolument. Bon. Très, très hâte, moi aussi.
On a dévoilé aussi chez Hyundai le Conan.
Oui, le Kona N, donc la version de performance du Kona. C'est assez spectaculaire. Bon, on l'a vu en photo, on a vu les données techniques, on ne l'a pas vu en vrai, on ne l'a pas conduit, mais tout ce qu'on a appris place la barre très, très haute, disons ça comme ça. Donc, on retrouve un moteur 4 cylindres, 2 litres, turbo-compressé, et on est, écoute bien Antoine, à 276 chevaux dans un véhicule du format d'un Kona.
C'est la mécanique d'une Veloster N.
Oui, dans un véhicule utilitaire sport sous-compact. Le Kona, dans sa version avec le moteur 1.6 turbo, c'était déjà un véhicule relativement dynamique, assez pépé, qui se déplaçait bien. Là, on arrive complètement ailleurs et on lui a conféré, si tu permets l'expression, une méchante gueule. Là. Donc, on l'a rempli d'éléments aérodynamiques. On en a presque fait une Civic Type R là, à partir d'un Kona. C'est violent sur le plan esthétique. J'ai très hâte de voir ça débarquer. Et ça m'a fait réaliser une chose, c'est que, chez Mazda, on a le CX-30 à moteur turbo, mais là, on est vraiment ailleurs. On arrive avec un premier véhicule, véhicule utilitaire sport sous-compact de, entre guillemets, haute performance. Là.
Je ne sais pas si Jeep va lancer un Renegade SRT.
ça serait un concurrent, parce que finalement, c'est un produit très, très radical dans son approche. Et,
mais est-ce qu'on est rendu là à faire des VUS sous-compacts hyper sportif alors que les voitures disparaissent.
Oui. Mais c'est pas étonnant parce que
j'ai presque envie de te dire que je trouve ça triste.
Ben c'est dommage parce que toi et moi on aime beaucoup les voitures à vocation sportive.
Le Kona, on va s'entendre, c'est une voiture là, mais
c'est une voiture mais avec un enrobage et un habillage qui lui est celui d'un VUS et
faut quand même se battre avec les lois de la gravité si on est sur un circuit aussi on pousse la machine à son extrême. Puis là, on parle d'une machine de performance assez sérieuse. Un Kona N, ça va être ça. Sauf que c'est un véhicule plus haut, qui va avoir une moins bonne tenue de route, qui va être juste un peu plus lourd qu'une voiture. Puis ça, c'est 4 roues motrices.
On n'a pas eu nécessairement tous les détails techniques, mais je présume que oui. Et parce que si c'était roue motrice avant seulement, ce serait un peu violent.
Remarque bien que c'est le cas pour la Veloster.
Oui, donc, effectivement. Mais on est dans une autre dynamique. Ouais. Mais bref, avec le Kona, c'est un véhicule qui est très populaire et on l'a décliné dans une multitude de versions. Ouais. Et il manquait finalement qu'une version sportive et elle va arriver. Donc c'est assez spécial à voir et on pourra suivre ça, mais est-ce que d'autres manufacturiers vont emboîter le pas dans cette direction-là? Je vais suivre ça de près.
Un EcoSport ST.
Ah non, non, mais chez Ford, on l'a échappé depuis très longtemps avec l'EcoSport.
Ouais.
Et c'est un revers qu'on essuie chaque année parce qu'on renouvelle le modèle. Et malheureusement, on n'est pas du tout...
On n'est pas là.
On n'est pas là un seul instant. Un petit mot, Antoine, quand même, pour mentionner que le Grand Prix du Canada 2021 est annulé. Une deuxième année consécutive où l'événement est annulé. Il y avait eu... des pourparlers qui mentionnaient que l'événement pourrait être tenu à huis clos, mais bon, à quoi bon, hein, finalement?
C'est ça.
Ça perd tout son intérêt, parce que, on sait que oui, c'est intéressant pour la course, mais c'est tout ce qui vient en périphérie et qui fait rayonner la ville de Montréal. Quoi qu'on aurait peut-être effectivement besoin d'un peu de rayonnement à Montréal, mais ça, c'est une note un peu plus éditoriale.
Peut-être que Denis Coderre s'en chargera dans quelques mois, parce que là, on commence à le voir un peu partout.
Ouais, la présence médiatique grandit chaque jour, donc peut-être que ce sera lui, le maire de Montréal, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 2022.
Le guide de l'auto. avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Maintenant, les voitures de la semaine.
Oui, voiture de la semaine. En fait, de mon côté, c'est mini fourgonnette de la semaine. J'ai conduit la nouvelle...
Mini?
Ben, c'est la fourgonnette.
Ouais, enlève le mot mini.
Oui, que... elle est rendue très grosse. Donc, c'est la Kia Carnival et... c'est la remplaçante, finalement, de la Sedona. On a uniformisé les appellations à l'international parce que, finalement, ben, elle s'appelait Sedona simplement en Amérique du Nord. Donc, en nous la présentant, Kia met énormément d'efforts pour nous faire croire qu'il s'agit d'un VUS et tout ce que tu veux. Mais la réalité, c'est que c'est une fourgonnette. Il y a deux portes coulissantes, il y a deux roues motrices à l'avant. C'est une mini-fourgonnette. Arrêtez d'appeler ça autrement. C'est ça. On va appeler un chat. Ben,
oui, c'est correct.
C'est correct. Voilà.
C'est correct parce que le produit est quand même impressionnant. Moi, oui. J'ai pris place à bord. Écoute, oui. Ils ont fait un sérieux travail.
Ben voilà. L'aménagement à bord est très, très bien pensé. Le dégagement, l'espace pour le conducteur et son passager.
La polyvalence de ça.
Oui.
Il n'y a pas un Sorento ou un Telluride qui arrive avec ça en termes de polyvalence.
Non, en termes de polyvalence pour la famille et même plus. Bon, quelques heures avant d'enregistrer l'émission, Antoine, je m'entretenais justement avec les gens de Kia au sujet de la Carnival et on nous disait qu'avec le nouveau modèle, on pouvait rentrer une planche de 4x8 dans la voiture et fermer dans le véhicule et fermer le haillon.
Encore faut-il avoir les moyens de se la payer.
Ben
la
voilà,
planche.
Parce qu'on n'est pas tous millionnaires.
C'est
hein?
Ça.
Bon, le prix des matériaux de construction a tellement monté. Mais bref, et oui, l'aménagement à bord est bien pensé. Oui, la Carnival est très douce. La douceur de roulement est là. On ne sent absolument
rien.
Ça va être
la phrase phare de cette émission. La Carnival est très douce.
Ben effectivement, elle est très douce. On sent absolument rien. Travailler, c'est vraiment le mot pour la décrire, la douceur. Mais je reste quand même un peu sur mon appétit parce que les constructeurs qui proposent des fourgonnettes et qui n'ont pas su, entre guillemets, évoluer, ont perdu des plumes avec les années.
Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est pas compliqué.
Non, il n'y en reste plus.
Il y a Chrysler, Honda, Toyota et Kia. Et tu vois, Toyota a adopté une stratégie hybride.
C'était très audacieux. Ça semble fonctionner.
Oui.
Le résultat est là. Donc, c'est hybride pour toute la gamme. On a le choix, 2 ou 4 roues motrices. Chez Chrysler, on propose le 4 roues motrices. On a aussi une version hybride rechargeable. Et chez Kia, c'est roues motrices avant seulement.
Avec
puis
le V6.
C'est le V6 qui, a du souffle. C'est pas ça que je lui reproche. Mais en même temps, en arrivant en 2022...
On est conservateur sur le plan technique.
On est conservateur. On pourrait pas mieux dire. Et on défend ce côté-là en disant, chez Kia, on voit encore une demande des familles pour des grands véhicules et tout et tout. Et je comprends. Mais l'ancienne Sedona, c'était le cas parce que, c'était pas avec un Sorento, avec une troisième rangée qu'on allait combler les besoins d'une famille. Mais au cours de la vie de la Sedona est arrivé le Telluride. Donc, est-ce que le Telluride n'est pas justement allé chercher tout ce marché-là? J'ai bien peur.
Je pense qu'on cible. Évidemment, il faut comprendre une chose, c'est que la Carnival est développée pour le marché nord-américain et que l'objectif
c'est les États-Unis.
C'est les États-Unis,
oui,
c'est évident.
Sûr.
Parce que le fait de ne pas avoir de rouage intégral, d'offrir un V6, alors que Toyota arrive avec une fourgonnette qui va consommer assurément 40% moins d'essence.
Oui, parce que tu vois, après un peu plus de 200 km...
T'es à 12 litres, là.
Non, 10 litres.
C'est très raisonnable.
C'est très raisonnable. Et j'ai fait un peu
une
tout.
Une Sienna, tu roules à 6,5, 7.
Oui.
Donc...
Il y a quand même un jeu entre les deux, là.
Mais moi, je pense que c'est un produit... Est-ce que je te dirais que ça va connaître un succès monstre? Non.
Non.
On sera pas leader dans le segment.
Non.
Mais on réussit assurément à aller chercher une bonne partie de la clientèle qui achète des Odyssey actuellement. Parce que l'Odyssey,
elle, soudainement,
se retrouve quatrième. Là.
Ben oui, effectivement. Alors, mais la Carnival aurait pu se retrouver plus haut dans le rang, mais malheureusement, elle va rester... Elle était, disons, troisième ou quatrième, et là, elle reste troisième.
Puis il y a quand même un point intéressant, parce que la majorité des gens qui, aux États-Unis, vont se procurer des Pacifica, vont opter pour des modèles traditionnels, moteur V6, roue motrice avant. Et j'ai l'impression qu'on l'échappe un peu avec cette nouvelle fourgonnette Pacifica qui ne connaît pas le succès qu'elle devrait connaître. Question de prix. Bon, il y a eu un trop long chevauchement avec la Grand Caravane.
Ouais.
Fait que là, comment on va réussir chez Chrysler à s'en sortir, à faire rayonner la Pacifica alors que la Carnival arrive avec une formule qui est quand même assez convaincante, autant oui. sur le plan du confort que de la technique.
Et l'échelle de prix est assez
Il y a 6 versions, oui, là, c'est oui, pas oui, rien. Oui, on a pas fait les choses à moitié. Là.
Non, c'est ça. Et on est audacieux avec l'échelle de prix. Ça va faire mal à Chrysler, ça, je n'ai pas de doute. De ton côté, Antoine, Audi Q5.
Oui, Audi Q5, j'ai trouvé ça intéressant. Version Comfort, donc vraiment un modèle quand même assez d'entrée de gamme que j'ai pu conduire.
Mais grand
semaine.
Public en même temps.
Grand public, là, ce qui est populaire, ce qu'on va louer à 750$ par mois. Donc, pas pour toutes les bourses, mais c'est pas le modèle le plus équipé non plus. Pas de toit ouvrant, les petites roues noires, intérieur noir, rien de super compliqué, mais qu'est-ce que ça va bien?
Ah, ben, ça ne fait pas dire.
C'est hallucinant. On l'a avec le Q5. On a renouvelé le modèle partiellement, retouche esthétique. On a modernisé l'habitacle un peu. La position de conduite, parfaite. La maniabilité, c'est exceptionnel. Et tu comprends pourquoi ce véhicule-là se vend et se revend et garde sa valeur. C'est tellement un produit réussi. C'est un des produits les plus fiables chez Audi aussi. Il faut quand même le mentionner. Alors moi, j'ai vraiment un produit, le Q5, même si, oui, ça a un peu vieilli. Tu prends place à bord de ça, t'es pas dans un Acura RDX plus gros, plus ostentatoire ou c'était fardé de technologie. Il y a plus de simplicité, d'efficacité à bord du Q5. C'est un design qui est beaucoup plus épuré
ouais.
Aussi. Il y a aucune lourdeur à bord de ça. Je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi. C'est tout, simple, tout, c'est efficace.
Tout ce dont on s'attend d'un véhicule allemand, finalement.
Mais tu as une impression de légèreté, tu as ouais. une précision dans la conduite que personne ne peut égaler. Pas même BMW, si tu veux mon avis. On a vraiment réussi quelque chose de très, très bien avec ça. Puis le véhicule, là, ça fait plusieurs années qu'il est sur le marché.
Absolument.
Là. Ça a vieilli peut-être au niveau de la présentation générale dans la mesure où la mode est à des véhicules peut-être plus gros, plus fardés, plus de technologie à bord. Et si vous montez en gamme, évidemment, dans le Q5, vous aurez une instrumentation numérique. Vous pouvez avoir le SQ5. Arrive également la version coupée cette année. Look discutable, si tu veux mon avis.
Oui, c'est spécial,
que tu
as
réussi, là.
Oui.
Mais pour le Q5, en termes de rapport qualité-prix, pour ce que tu obtiens, je veux dire, c'est pas donné un Q5, mais la valeur est là et la preuve, c'est que ça se revend très cher et d'un claquement de doigts. Alors, ça demeure pour moi le meilleur véhicule de ce segment-là. Puis, j'étais content de le conduire à nouveau parce que...
Ça confirme la pensée que tu avais, l'idée
ben oui,
que tu avais.
Absolument, absolument.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
On a parlé, Germain, de la Civic en première partie d'émission. Et évidemment, on aurait pu parler aux gens d'Honda Canada pour... qu'ils nous vendent cette nouvelle Civic-là. Mais moi, j'avais un peu plus envie d'aller chercher le pouls du marché. Parce que la Civic, c'est une voiture qui a énormément d'histoire, qui a grandi, qui a vieilli, qui a évolué avec le cœur des gens.
Et notre interlocuteur a lui-même grandi avec la Civic.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on est avec Sébastien Brassard, président de Honda Terrebonne. Salut, Sébastien.
Bonjour.
Bonjour, messieurs. Ça va bien?
Ah oui, absolument, merci. Alors d'abord, peut-être nous expliquer ta petite histoire, parce que évidemment, Honda Terrebonne, c'est une affaire de famille dans laquelle tu as grandi, là.
Exactement. Mon père, en 1987, il a fait l'acquisition de la concession. En fait, donc, il a parti Honda Terrebonne sur le chemin Gascon. Donc, notre histoire de Simon et moi, là, mon frère, a commencé à ce moment-là. De côtoyer les produits Honda vraiment là, au quotidien.
Puis moi, il faut que j'explique aux gens qu'on a étudié ensemble à la même école. Moi, je vous ai vu rouler dans les années 90 avec des Civic de cette époque-là. Et vous avez évolué, évidemment...
au sein de l'entreprise.
Au sein de l'entreprise, tout comme la Honda Civic, là, finalement.
Oui, exactement. Toi, tu m'as connu quand j'ai commencé avec ma Civic 92 CX, pas de power steering.
Pas de rétroviseur passager avec des jantes d'acier de 13 pouces, avec une radio AM que tu avais pris en option. Je sais pas que tu écoutais d'ailleurs à OAM en 1995.
Effectivement, c'est une option douteuse. Heureusement, la Civic est un peu plus équipée aujourd'hui.
Oui, c'est ça, exactement. Puis évidemment, ben la Civic, là, tu le vois, tu es rendu président de Honda de Terrebonne. Un président dans un concessionnaire, ça fait sa job de président et toute autre tâche connexe. Oui. Alors, tu mets ton nez un peu partout dans chaque sphère d'activité. La Civic pour Honda au Québec, ça représente quoi? Si tu pouvais me le décrire.
C'est vraiment un de nos véhicules forts. Là. Ça fait partie d'une des majorités de pourcentage de vente qu'on fait à chaque année. Là. Donc, c'est un de nos véhicules qui est très, très, très important. Puis, on a une clientèle qui est excessivement fidèle sur ce véhicule-là depuis de nombreuses années. Fait qu'on est, tu sais, super content qu'Honda nous annonce là, qu'on a un modèle avec un changement. Puis, on pense que c'est très, très, très positif pour nous autres et pour notre clientèle.
Bien, tu nous as glissé un mot comme quoi la clientèle de la Civic était fidèle. Comment Honda a su peut-être évoluer ou grandir avec cette clientèle-là?
Bien, je peux donner un exemple. T'sais, souvent, on part avec des clients qui ont probablement acheté un véhicule d'occasion. Puis là, je recule vraiment v'là longtemps. Puis je vais prendre des exemples de membres proches de moi, des bons clients qu'on a, par exemple, qui ont commencé avec une Civic deux portes là, des années 90. Ils étaient célibataires ou en couple. Ils étaient dans 18-20 ans.
La Civic était évidemment vers
la question ne dit pas s'ils sont devenus en couple à cause de la Civic deux portes, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais il y a eu une évolution et, en fin de compte, ces gens-là ont eu des enfants. Donc, ils ont eu dû changer à s'acheter une Civic quatre portes et garder un véhicule dans la même gamme de véhicules. Par contre, là, on change, on s'en va vers un quatre portes. Et ces clients-là, on les a vus évoluer dans Honda. Il y en a qui ont décidé de garder des Civic, puis selon les besoins, il y en a qui ont décidé de changer de modèle. Exemple, à l'époque, augmenter vers un CRV pour avoir plus d'espace. Mais tout dépendant si le véhicule était un véhicule primaire ou secondaire au sein de cette famille-là.
Dirais-tu que la clientèle qui se procure des Civic est plus fidèle en moyenne à ce modèle-là que celle qui va se procurer des HRV, des CRV, des Accord, par exemple?
Je dirais pas ça parce qu'on a beaucoup de clients là, qui sont fidèles et qui gardent le même modèle pendant plusieurs années. Mais on s'entend que la Civic, c'est un de nos premiers véhicules avec l'Accord à l'époque puis la Prélude. Puis il y en a un qui a disparu, qui est la Prélude. Puis après ça, il y a eu le CRV qui est arrivé et les autres modèles qu'on connaît. Et donc, ça se peut que nos clients ils ont changé selon leurs besoins. La question d'un chalet ou XYZ de raison, les besoins ont changé. Donc, la grosseur du véhicule a pu changer. Mais on a des clients qui ont commencé avec des Civic, là, pour nous autres, là, depuis 40 ans, qui se promènent encore en Civic aujourd'hui. Puis ce qu'on peut voir, c'est la Civic, elle a vraiment changé depuis les années. Puis il y a des années où ce qui est devenu un petit peu plus luxueuse versus sportive. Fait que ouais. Je parle plus l'année 2001, là, quand il y a eu ce changement-là.
Ouais.
Mais après ça, 2006, ça en vient un petit peu plus sportive. Les clients ont bougé là-dedans, puis ils ont accepté qu'Honda prenait des décisions, mais il y a vraiment eu des changements obligatoires. Augmentation de poids due à la sécurité. Fait que, tu sais, il y a plusieurs changements qui ont été dictés par, je pense, pas juste le marché, mais par les obligations du manufacturier.
Bon, évidemment, la Civic, il y a eu des générations peut-être un peu plus mémorables que d'autres. La génération 88-91, je pense que c'est un incontournable. Puis en revanche, peut-être que la génération, justement, 2001-2005, c'est peut-être celle qu'on veut un peu moins se souvenir.
Ou qui a moins soulevé les passions,
c'est
tout simplement.
Ça. On a perdu un peu cette espèce de on a perdu avec cette génération-là cette espèce de flamme-là qu'on avait pour la Honda Civic parce qu'elle s'était un peu américanisée, parce qu'elle avait vieilli avec la clientèle. Mais on s'est rattrapé en 2006 avec une voiture qui était bien audacieuse. Où tu positionnerais la Civic aujourd'hui?
Je pense qu'Honda, surtout avec l'année 2016, quand ils ont essayé de sortir le véhicule, ils sont allés vraiment chercher des véhicules plus haut de gamme, dans des marques haut de gamme, pour aller essayer de créer un nouveau véhicule. Fait que, tu sais, si je prends des exemples de pièces de suspension qui proviennent beaucoup de véhicules allemands, ouais. Ça a vraiment rehaussé la catégorie de la Civic. Puis moi, puis sinon, on est très fiers. Là. On se promène dans des Civic régulièrement, puis à chaque fois, on est quand même surpris par la rigidité du véhicule, au quotidien. Puis ça, même si on parlait d'un véhicule qui était entrée de gamme, moins équipé, à l'entour de 17-18 000 $, qui était notre première, était quand même bien conçu. Fait qu'on pense qu'on a augmenté un petit peu la barre à ce niveau-là, en essayant de garder un prix, un prix quand même convenable pour les gens.
Bon, évidemment, la Civic est arrivée à l'automne 2015, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a pas évolué en 7 ans. C'est encore la même voiture que vous avez pour l'année modèle 2021. Donc, évidemment, j'imagine que pour vous, c'est pas évident là, d'avoir eu à garder un modèle inchangé aussi longtemps, surtout dans l'optique où vous renouvelez vos clients à la location au bout de 3-4 ans, là.
Et qu'on voit les véhicules concurrents, par exemple chez les Coréens, évoluer beaucoup plus rapidement. Là.
Ouais.
Exactement. Je trouve que vous avez vraiment raison. Puis pour nous autres, on aime ça avoir du changement. T'sais, les clients, quand ils changent de modèle, ils aiment ça avoir quelque chose de nouveau. Je compare ça un petit peu avec un téléphone cellulaire. Tu ne changeras pas ton téléphone cellulaire pour la même chose si le tien fonctionne bien. Mais tu vas changer pour le nouveau modèle. On sait par contre qu'en 2020, ça a été une année assez...
Je veux juste mentionner par contre, Sébastien, qu'un cellulaire, c'est un peu moins cher qu'une auto. Mais la comparaison tient quand même.
Mais souvent, tu vas avoir des plans de financement sur 2 ans.
C'est ça.
Donc... Je suis d'accord avec vous autres. Mais l'année 2020 a été quand même remplie de défis pour plusieurs manufacturiers.
Ah, ben oui.
Ça a été toute une année. Là. Ils ont reporté, selon moi, l'entrée de la Civic... de quelques mois. Fait que, on va l'avoir à peu près 8 mois après la date prévue qui était supposée d'être à l'automne dernier.
Ben, c'est clair, dans le fond, que la Civic, je le disais en première partie d'émission, c'est clair que la Civic 2022 devait être lancée pour le millésime 2021 puis qu'on a retardé ça d'un an. Là. Ça, c'est évident.
Ben, exactement, mais ça aurait dû sortir à l'automne. On aurait dû, grosso modo, l'avoir à l'automne ou durant l'année passée.
C'est ça.
Sans pas rentrer. Honda, habituellement, quand ils sortent un véhicule, c'est un véhicule qui est abouti, tu sais, qui est prêt à sortir.
Oui.
Ils n'avanceront pas en disant, ben, c'est pas grave, on va faire plusieurs mises à niveau dessus, non, ils sortent, ils sont prêts, ils vont bien. Fait que, mais on est content.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ton voisin qui vend des Ford, lui, c'est peut-être.
C'est peut-être un peu différent.
Il regarde par la fenêtre, puis il regarde son voisin, puis il se dit, là-bas, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
Mais bref.
Parce que quand l'Explorer est arrivé, par exemple, il y avait quelques détails à peaufiner.
On peut peut-être donner à Ford l'audace de sortir des véhicules, tu sais, qui sont technologiquement impressionnant sur le coup, mais c'est vrai que dans certains cas, quand on arrive avec un modèle, des fois, il reste quelques boulons à visser, là, alors que chez Honda, ben c'est différent.
Puis, en tout cas, mais on a hâte d'avoir la nouvelle Civic. On sait qu'ils ont probablement travaillé très, très fort à essayer d'amener un véhicule qui va encore plaire à la clientèle, parce qu'il y a encore une place pour des berlines puis des véhicules de cette grosseur-là au Canada. Là, vraiment, je pense qu'on a une belle clientèle qui vont vouloir continuer à acheter ces véhicules-là.
On sait que la Civic est souvent associée au plaisir de conduire. Bon, ça l'était peut-être un peu plus par le passé. Plaisir de conduire vient souvent avec la boîte manuelle. Est-ce que tu crois encore au marché et à la pertinence d'offrir une transmission manuelle pour une voiture, pour une berline compacte?
Ben, là, je vais vous donner un point, puis je pense que vous n'êtes pas pire là-dedans. Là. Je pense que s'il y a une boîte de manuelle qui est le fun à conduire, l'historique d'Honda fait que ça soit peu importe le modèle, sont le fun à conduire. Fait que, tu sais, déjà là, on part avec un méchant point positif chez Honda. Du côté de la clientèle, nous, quand ils rentrent en concession, la part des gens vont rentrer avec 3 buts pour un véhicule manuel. Première chose, ils croient que c'est un véhicule qui est beaucoup moins dispendieux.
Deuxième chose, oui, encore, hein?
Il y en a beaucoup. Deuxième chose, c'est que c'est un véicule qui est beaucoup plus économique en essence.
Ben, ça, c'est plus vrai.
C'est ça. Puis l'autre des choses, c'est que c'est beaucoup plus performant. Fait que, tu sais, on a notre job à faire, nous autres, ici, en faisant essayer nos véhicules, à montrer aux clients que les CVT de Honda qui ont quand même été peaufinés pour être plus agréables à conduire que ce qu'on connaît d'une CVT conventionnelle, puis qu'on a connu dans le passé, et qui sont vraiment bonnes en économie d'essence, puis rendues au prix, mais là, on fait la différence aux clients. Nous autres, on est dans une situation nord de Montréal, les gens sont pris dans le trafic. Fait qu'on a l'impression, on le sait que les clients vont avoir besoin de changer de vitesse régulièrement. Fait qu'il y a une question de confort à un moment donné, puis que les gens sont prêts peut-être à faire un petit changement pour ça.
Mais toi, quand tu... Je vais te poser la question différemment. On disait chez Honda que 14 % des Civic berlines au Québec vendues en 2020 étaient équipées de boîtes manuelles. C'était 6 % pour le marché canadien. Donc, on voit qu'au Québec, il y a peut-être un peu plus d'engouement que pour la moyenne des autres provinces.
Et même la Civic par rapport à d'autres modèles, 14 % c'est très élevé comme proportion, là.
Puis c'est élevé considérant le nombre de véhicules qu'on vend.
Ouais.
Mais si moi, je m'appelle Sébastien chez Honda de Terrebonne et qu'un client arrive avec une Civic à boîte manuelle à vous vendre en échange, par exemple, est-ce que tu es intéressé à la racheter ou beaucoup moins que si c'est une automatique? As-tu encore de la demande pour ça ou c'est un épine dans le pied pour toi? Parce que chez certains manufacturiers, il n'y a plus d'intérêt, puis il y en a d'autres où, oui, il y a encore une demande et justement, elles vont se revendre rapidement parce qu'il y en a de moins en moins.
On a tout le temps une demande pour ces véhicules-là. Puis, dans l'occasion, nous autres, on ne sera jamais freiné pour un véhicule qui est manuel. La popularité est pour un véhicule automatique. Les gens vont demander pour ça autant dans l'usager que dans le neuf.
C'est sûr.
Et le pourcentage serait similaire pour l'occasion ou pour le neuf. On le sait qu'Honda, ça a tout le temps été populaire, les manuels chez Honda. Mais on le sait qu'il y a une partie de la clientèle qui vont quand même décider de changer parce qu'il n'y a pas d'offre non plus ailleurs pour du manuel ou il y en a de moins en moins.
Ouais. Donc, c'est un peu les manufacturiers qui forcent le marché à changer, là.
Ils forcent le marché un petit peu pour prendre une décision sur 14 %. Mais dans le 14 %, il y en a combien qui auraient vraiment pris peut-être une automatique rendue à ce moment-là? Il y en a quand même une certaine partie. Ceux qui croyaient vraiment que c'était plus économique, mais peut-être que les autres vont décider vraiment de changer pour l'automatique.
La Civic SI, elle, est demeurée sur le marché. Bon, a évolué avec le temps. C'est une voiture qui s'est embourgeoisée. Là, on ne se le cachera pas. C'est plus la petite voiture nerveuse qu'on connaissait avant. Il y a encore ce côté sportif intéressant puis plus de performance. Mais c'est une voiture qui est plus luxueuse qu'à une certaine époque, c'est bien clair. Mais c'est une stratégie, justement, très curieuse de Honda d'avoir conservé uniquement une boîte manuelle dans cette voiture-là. Pas d'offre de boîte automatique. Alors qu'on sait qu'on a une bonne transmission double embrayage du côté de l'Acura ILX, qui est sa proche cousine. Est-ce que tu penses que d'avoir offert une boîte double embrayage dans la Civic SI, ça aurait pu permettre d'augmenter de façon significative les ventes de la version SI?
Je ne sais pas si ça aurait augmenté vraiment les ventes, parce que nos clients qui achètent des SI, la plupart des gens veulent vraiment un modèle qui va être manuel. Puis ceux qui ne le veulent pas, on est capable de les transférer sur un modèle qui va être, par exemple, les hatchbacks qui vont être automatiques, ou par contre, on peut aussi prendre aussi l'exemple dans nos véhicules touring qui sont sensiblement équivalents, qui sont automatiques.
Ouais.
Fait que les gens vont changer de modèle. Mais l'amateur de véhicules vraiment sportifs, il veut continuer à conduire manuel. Puis je pense pas qu'Honda, tu sais, il se barre vraiment à avoir une clientèle supplémentaire en n'offrant pas la double embrayage. Et le pire, c'est que je doute fort bien que l'Acura est vraiment le fun à conduire. Je l'ai pas essayé, ce modèle-là.
Ah, ça manque à ta culture, parce que cette transmission-là, honnêtement, c'est un secret qui, selon moi, est trop bien gardé chez Honda. C'est une boîte qui travaille de façon magnifique. Il n'y a pas trop de délai à l'accélération initiale. Ça répond vite. Puis je trouve que c'est extrêmement bien marié avec le moteur actuel de la ILX, mais qui est évidemment appelé à disparaître, là.
Exactement. On ne l'a pas mis avec le moteur turbo, mais je suis sûr que ça serait assez le temps à conduire.
On sait que Honda a tenté la technologie hybride par le passé avec la Civic à quelques reprises. Ça n'a pas toujours été des grands coups d'éclat. On sait qu'en 2022, bon, parlons pour la prochaine année, l'automobile électrifiée, ben, c'est rendu une norme. Où vois-tu la Civic se positionner dans cet univers un peu plus vert, là?
Bien, moi, la première des choses que je prends en considération, c'est le fait que notre véhicule le plus populaire chez Honda, c'est une Civic LX CVT. Fait qu'en partant de ce moment-là, c'est que tu dis, bon, c'est un véhicule en entour de 25 000, 24 000. Pour te rendre avec un véhicule avec beaucoup plus de technologie, c'est sûr que le coût va augmenter. Fait que est-ce que le coût mensuel va faire que le client va pouvoir aller vers ce véhicule-là? On a la Insight qu'Honda nous a mis. Pour moi, c'est une Civic là, qui est redessinée un petit peu avec mais c'est le même, c'est grosso
modo. Ben oui, il aurait pu l'appeler, on s'entend tout là-dessus, il aurait pu appeler ça Civic hybride, puis voilà.
Et c'est pas comme si le nom Insight était très puissant, parce qu'on l'a essayé deux fois auparavant, puis là, c'était le troisième coup, et visiblement, c'est pas une grande réussite sur le plan commercial, l'Insight de troisième génération, là.
Non, puis on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup en volume, mais à chaque fois qu'on en a, on les vend immédiatement.
Ben, c'est ça.
OK. Ben, ça, c'est intéressant.
C'est le point. C'est que moi, j'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de demande. J'ai juste l'impression que Honda n'est pas intéressé à en vendre. Puis je pense qu'on peut comprendre la stratégie. On fabrique une Civic chez nous au Canada qui est bien très sûr rentable de vendre chez nous, alors que l'Insight fabriqué au Japon, il y a des coûts d'exportation qui sont gigantesques. Il y a des coûts de fabrication qui sont plus élevés. Donc, évidemment, les taux d'intérêt sont en conséquence, etc. Il n'y a pas d'intérêt de la part d'Honda de vendre cette voiture-là, à se demander même pourquoi on la propose.
Ouais.
Parce que c'est une Civic hybride qui, dans le fond, peut être très intéressante pour une certaine partie de la clientèle. Là.
Exactement. Est-ce que je me pose plein de questions par rapport à ça? Est-ce que c'est des véhicules qui rentrent ici, qu'on fait des tests avec les véhicules en Amérique du Nord? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que présentement, en prenant en considération la différence de coût, c'est pas tout le monde qui va vouloir payer la différence présentement. On le sait que dans le futur, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup de nos produits qui vont être intégrés avec un système similaire à la Insight et même amélioré, là, surtout. Et j'ai l'impression que les coûts vont commencer à diminuer et qu'on va pouvoir proposer ça et ça va être beaucoup plus accessible pour les gens et ils vont vouloir embarquer là-dedans.
Dirais-tu que c'est la même chose pour la Clarity au niveau de la demande? Est-ce que tu écoules tout ce que tu as puis tu es limité dans ton inventaire?
On est limité dans les commandes de Clarity. Et si j'en ai une en inventaire, elle sort dans les jours suivants, sinon je pourrais dire heures suivantes, parce qu'on a des clients qui attendent juste de l'avoir ou de l'essayer. Puis au moment où ils l'essayent, ben ils tombent sous le charme quand même de ce véhicule-là. C'est un véhicule qui va super bien puis qui est bien adapté à quelqu'un qui va faire beaucoup de kilométrage puis qui ne veut pas se tracasser à être obligé de tout le temps planifier ses voyages d'avance.
Ben, c'est un excellent produit, c'est juste qu'il faut se fermer les yeux. Hein?
Mais elle est très belle quand
ouais.
tu es assis à bord.
Oui,
ça aussi. Là.
Il faut juste aller plus loin que son look, mais malheureusement, c'est ça, elle n'est pas suffisamment considérée et beaucoup s'en moquent pour des raisons évidentes.
Mais encore là, je pense que c'est une voiture ouais. qui pourrait connaître beaucoup plus bien de succès sûr. Si Honda en avait plus à
ouais.
offrir.
Ouais.
Tu sais, puis est-ce qu'il y a une question de volonté à ce niveau-là? Ben ça, c'est une autre affaire. Évidemment, Honda, on le sait, on fabrique au Canada la Civic, le CR-V. Ce sont les deux véhicules qu'on promouvoit le plus. Ce sont les deux véhicules qui sont les plus vendus chez nous. Et une stratégie intéressante chez Honda, Sébastien, c'est évidemment la stratégie de louer et d'être capable de reprendre une voiture avant terme et de renouveler très souvent son client. Est-ce que c'est une avenue qui est de plus en plus difficile considérant le marché de la voiture compacte à la baisse ou est-ce que tu continues de voir un filon qui est très, très bien rodé, qui continue sa route de façon régulière?
Et nous autres, pour vrai, la location, c'est un de nos offres de financement qui colle à la peau à une majorité de nos clients. C'est 55-60% de nos clients qui désirent avoir une location. Puis, on trouve ça, pour nous, on le trouve vraiment avantageux. On est capable de racheter 90% des véhicules qu'on loue à nos clients.
Tu veux dire avant terme, là?
Bien, incluant la fin du terme aussi. Fait que je veux aller, tu sais, sur un 48 mois, que ce soit de jusqu'à 48 mois, 90% des véhicules sont rachetés.
OK.
Et ce qu'on va décider de ne pas racheter, c'est un véhicule qui va avoir été accidenté pour des gros montants que ouais. nous, on ne veut pas revendre à notre clientèle. On n'est pas intéressé. Il y a d'autres compagnies que eux, ça ne leur dérange pas, ils vont leur vendre. Mais nous, on n'est pas intéressé de vendre ces véhicules.
Autrement dit, des véhicules qui ont des gros carproof, qui ont des historiques so-so ou qui sont plus ou moins bien entretenus, tu les laisses aller, ça se retrouve à l'encan, puis tu t'occupes pas de ça. Mais sinon,
la force de la Civic, c'est sa présence sur le marché d'occasion et le fait que sa demande soit très forte. Et toi, ben, ça t'incite à générer des Civic d'occasion. Là.
Ben, exactement. Puis, tu sais, je veux pas juger ceux qui vont faire des financements sur des longs termes, mais on le sait que la vie change, puis qu'à l'occasion, tu peux te retrouver avec une petite surprise qui est super la fun, mais tu te retrouves avec des jumeaux, puis ton véhicule que tu as actuellement, ben, fait peut-être pas l'affaire, puis que si tu es en location sur 4 ans, puis que tu t'en laisses 3 avec un Honda Civic, ben ton équité négative risque d'être contrôlable comparativement avec d'autres véhicules que tu as pris sur des très longs termes puis que les valeurs de revente sont moins bonnes. Là, tu te retrouves avec des équités négatives qui chiffrent pas mal élevées. Là, tu vas être obligé de traîner ça pendant plusieurs années. Ben nous autres, on a cette option-là. Honda sont agressifs là-dedans. On pense que c'est une des meilleures solutions pour notre clientèle. C'est pas donné à tout le monde, mais il y a une bonne majorité de la population qu'on pense que c'est le moyen de financer un véhicule présentement.
J'étais en partie d'accord avec toi parce que c'est vrai que l'équité négative sur une Civic jusqu'à un terme de 48 mois, elle est très faible, en tout cas, s'il y en a une. Par contre, on voit beaucoup Honda promouvoir du 60 mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu pousses ou... parce que moi, je déconseille littéralement aux gens de louer
là,
sur un 60
là,
mois parce que la différence entre un 48 et un 60 sur le paiement est souvent minime. Est-ce que vous poussez beaucoup le 60 ou est-ce que vous poussez davantage le 48?
Bien, le problème, il faut pas le regarder sur le terme en tant que tel, il faut le regarder avec quoi le client le compare. Puis quand le client compare une location 60 mois, parce qu'il va comparer dans d'autres marques un financement sur 96 mois. Puis à ce moment-là...
Ce qui n'a pas de bon sens retrouve, non plus, là.
Bien, c'est ça. Fait qu'on se retrouve que moi, mon client qui passe sa location 60 mois, qu'habituellement, on va y changer, là, que ce soit au moment de 60 mois ou un peu avant, ben, il se retrouve quand même pas avec sa Honda de faire des gros entretiens sur son véhicule qu'il n'aura pas besoin de faire. Puis quand je parle de gros entretiens, ça commence, je finis avec entretien parce que dans d'autres manufacturiers, on parle plus de 60 mois des entretiens, on parle de changement de pièces majeures. Puis à ce moment-là, nous, on le fait pas. Fait que mon client, entre son 48 et son 60 mois, il n'a pas besoin d'encore d'investir des gros montants sur son véhicule. Puis c'est là que je me rends compte que les gens, quand on change de véhicule, ben il n'y a pas des grosses équités négatives. Tandis que si quelqu'un sur son 96 mois, il se retrouve avec une équité négative qui change au bout de 5 ans.
Ah, c'est sûr. Ah, puis ouais, ouais. À 96 mois, même dans ta sixième année, tu n'étais pas à équité égale, c'est clair, là.
Et c'est à ce moment-là qu'on nous écrit par courriel et qu'on nous demande quoi faire avec cette situation embêtante. Et ben malheureusement, on peut pas faire grand-chose à part de prendre notre mal en patience, là.
Sébastien, exactement. Tu t'attends... Vas-y, excuse-moi.
Allez-y.
Ben, Sébastien, en terminant, je suis curieux de savoir à quoi tu t'attends de la nouvelle Civic. Elle va arriver quelque part au mois de juin. Est-ce que tu as des gens qui l'attendent? Est-ce que tu as beaucoup de dépôts sur cette auto-là? Ou est-ce que ça sera pour toi une évolution? Est-ce que après ça, de vendre des Civic 2021 restantes, ça va être difficile aussi? Comment tu vois ça, cette transition-là?
Ben, nous autres, en ce moment, on a déjà commencé à avoir quelques dépôts sur des Civic 2022. Il y en a qui ont très, très hâte de la conduire.
Ouais.
Le pire, c'est que c'est des clients qui ont déjà des véhicules Honda, puis ils n'ont pas le dernier modèle, là. Ils ont des modèles des années 2006-2011 à peu près, puis là, okay. Ils ont hâte que la nouvelle Civic arrive. Pour nous, quand on parle de changement de modèle, c'est jamais un problème d'écouler le modèle restant, là, celui qui est il est encore beau, il est encore au bout du jour. Honda, ils ont des promotions assez intéressantes. Fait que, tu sais, on va les écouler. Puis ça se passe tout le temps. Peu importe le modèle Honda qu'on change, on est tout le temps capable de les écouler. Puis assez rapidement en plus. Fait que, tu sais, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on a hâte de l'avoir dans la salle de montre. Ça crée tout le temps un engouement. Puis les clients, quand ils rentrent, exemple, pour un entretien, puis qu'ils voient la nouvelle Civic, bien, c'est sûr que ça crée quelque chose. Puis ils ont le goût d'aller l'essayer puis de voir si on est capable de changer de modèle.
Puis s'ils ne l'ont pas vu, je suis persuadé que tu vas t'en charger, tu vas t'occuper de leur montrer, ça, il n'y aura pas de problème. Parce qu'évidemment, un des avantages de la Civic, tu sais, actuellement, il y a un problème de disponibilité de véhicules dans l'industrie. C'est pas le cas pour la Civic, si je ne m'abuse, parce que c'est une auto qui est fabriquée chez nous. Bon, il peut y avoir des pénuries de pièces pour les fabriquer, mais actuellement, dirais-tu que vous manquez de Civic? J'imagine que non.
Alors, nous autres, on est encore bon pour encore quelques mois. Puis quand la nouvelle Civic va arriver, si on croit qu'ils sont capables de fabriquer à gros volume ici au Canada, on ne devrait pas en manquer. Là. Fait qu'on devrait être correct pour continuer le reste de l'année. On le sait qu'on risque d'être un petit peu plus serré vers la fin de l'année, mais on est quand même positif. Puis on va s'habituer. Si quelques clients doivent attendre quelques semaines avant d'avoir leur auto, ils vont comprendre, mais on pense pas que ça va être attendre des plusieurs mois pour obtenir un véhicule.
Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, hâte de voir la Civic en chair et en métal parce que.
Ça va ressembler à ça.
Ça va ressembler pas mal à ça.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci. À bientôt.
À bientôt. Bonne journée.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, je te lis rapidement quelques questions du public. On a Guy qui a commandé une camionnette Ram en février dernier et plusieurs options sont en restriction, siège ventilé en cuir, ensemble de sécurité, etc. Et il se demande si tu as une idée des délais qui sont occasionnés par tout ça. Son concessionnaire n'ose pas s'avancer avec une date et il est un peu tanné d'attendre.
Ben, il y a personne qui est capable de donner une date
exacte. On n'a pas de boule de cristal non plus.
Les délais, moi, je m'en fais demander à tous les jours. C'est un problème dans l'industrie actuellement. Vous n'êtes pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui m'ont notamment parlé de problèmes de différentiel autobloquant chez Ram. On peut vous livrer un camion, on peut vous le bâtir, mais faites une croix sur le différentiel autobloquant. Alors, c'est bien difficile à prévoir parce que c'est la disponibilité des pièces qui va parler. Et ça, ben, actuellement, c'est un problème partout dans l'industrie. C'est un problème qui est causé par le fait que la plupart des manufacturiers font affaire toujours avec la même entreprise et lorsque cette entreprise-là connaît des problèmes...
Les manufacturiers sont dépendants de sous-traitants.
Ils sont carrément dépendants. On le voit là, actuellement, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous pourrez avoir votre RAM d'ici un mois, deux mois, trois mois, quatre mois? C'est bien difficile pour moi de vous dire, malheureusement. J'ai pas de réponse précise à ce niveau-là. Mais c'est le risque de commander un camion sur papier plutôt que de choisir ce qu'il y a dans le cours. Ça, c'est sûr qu'un pick-up, c'est pas évident.
Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans les cours non plus en ce moment. Donc, les choix sont assez limités.
Ouais.
On a Frédéric qui aurait l'opportunité d'acheter le Ford Explorer 2011 à moteur V6 de 3,5 litres d'un membre de la famille. Le véhicule a 67 000 km, était bien entretenu et traité à la rouille, n'a jamais remorqué. Le système de climatisation doit être réparé cependant. Est-ce que c'est un bon achat pour 10 000 $? Il ne veut pas acheter un véhicule qui va tomber en ruine d'ici quelques mois. Il nous précise qu'il a eu des mauvaises expériences avec la transmission de sa Ford Focus 2013 et qu'il a actuellement un Ford Escape 2015 à roues motrices avant et qu'il n'est pas bien impressionné par ce véhicule-là.
Bon, faut comprendre que l'Explorer en 2011, c'était tout nouveau. Ça venait de débarquer. C'est vraiment pas un millésime que je recommande d'habitude. C'est pas non plus un produit qui m'impressionne vraiment. Maintenant, ce qui me convainc dans ce que vous me dites, c'est que le véhicule a 10 ans, a été bien entretenu, il y a 67 000 km.
C'est très, très peu.
Alors les problèmes sont assez minimes et l'anti-rouille a été fait. Alors ça, c'est un point hyper important parce que ce sont des véhicules vulnérables à la rouille. Est-ce que personnellement, j'achèterais ce véhicule-là? Non, mais comme vous le connaissez, il y a un sérieux avantage à acheter ça par rapport à un autre véhicule équivalent. Vous avez un Escape 2015. Là, vous allez vieillir de 4 ans pour un véhicule, évidemment, plus énergivore, plus gros, avec lequel vous pourriez avoir des problèmes. Là, on parle quand même d'un véhicule qui a 10 ans.
Effectivement.
Alors, recommandez ça les yeux fermés. J'ai bien de la misère. Puis les Explorer 2011, c'était des véhicules à problème pour toutes sortes de raisons. Là. Électronique, transmission, les modules de commande, nommez-les. Là. Il y en a eu énormément des problèmes sur ces véhicules-là. Sauf que si le véhicule a 10 ans, et fonctionne bien, ben posez la question à celui qui le possède en ce moment. Est-ce que ça a été un cauchemar pendant 10 ans ou est-ce que ce véhicule-là était quand même assez fiable? Et si oui, peut-être que ça peut mettre un baume sur l'image de ce véhicule-là qui n'est pas très, très rose là, de façon générale. 10 000 $ pour un 2011, bien qu'il n'ait pas beaucoup de kilométrage, c'est pas donné, à mon avis. Un Explorer de 10 ans, ouais. Moi, personnellement, j'irais pas là.
OK. Bon, c'est clair. Disons ça comme ça.
C'est bon, il y a beau avoir un bel historique.
Je comprends qu'il y a des hésitations.
Et la vérité,
qui demeurent,
là, il y a un super bel historique qui est convaincant, mais ça reste un Explorer 2011.
Oui, et de reculer en âge par rapport à son véhicule actuel, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des options.
En tout cas, tout dépend de ce qu'on veut faire avec le véhicule.
Oui, les hésitations demeurent. Disons ça comme ça.
C'est ça.
Merci beaucoup, Antoine. À la semaine prochaine.
Salut.
Cube Radio.